Nous sommes en 1935 à Paris, à l'Opéra Comique, où on donne ce soir-là le Rigoletto de Verdi. Les ouvreuses ont le sourire, les spectateurs rejoignent leur siège peu à peu. Le brouhaha ambiant cesse, il est l'heure, les trois coups, la salle s'éteint. Les spectateurs tous se raclent la gorge une dernière fois. Les musiciens sont immobiles près de leur instrument. Le chef d'orchestre fait son entrée d'un pas assuré. La salle applaudit mollement, constate avec appréhension Jean-Marie Gueuzy, le directeur des lieux. La baguette du chef tapote à deux reprises le pupitre, temps suspendu. Le rideau de l'Opéra Comique se soulève et dévoile son décor. C'est parti pour un Rigoletto qui, hélas, compte ses sous, car ce théâtre est un gouffre. Il a fallu renoncer au plaisir de la création, réduire les coûts de production, opter pour une ancienne mise en scène. Pourtant, ce Rigoletto restera dans les annales. Une voix à nul autre pareil vibre à travers la salle. Le public n'entend qu'elle, elle efface toutes les autres. C'est celle d'Elio Leone, qui interprète un rôle secondaire, celui de Borsa. Elio Leone, l'homme à la voix d'or, est en route vers la renommée. Il est né le 11 février 1912 dans une grange du villa de San Giorgio, située dans la province de Naples. « Tu seras quelqu'un », souffle sa mère Musetta à l'oreille de son bébé. Et elle a raison, Musetta, même si elle ne saura rien de ce qui attend son enfant, qui sera baladé de famille d'accueil en famille d'accueil. Il grandit sans amour, et corvéable à merci, reçoit des taloches à tout va. Mais sa force de caractère, sa curiosité, son côté débrouillard le préserve de la colère, de l'aigreur. Un jour, sa route va croiser celle du bon docteur Giuseppe Tropeano, qui l'accueille dans son institut et lui offre sa protection. Grâce à lui, Elio peut aller de l'avant. Les années passent. Elio est un gamin intelligent, cela ne fait aucun doute. On remarque la voix exceptionnelle de ce musicien né. Il a 20 ans quand il fuit le régime mussolinien pour Paris, en 1932. Il est venu pour chanter et peut-être y parviendra-t-il. La première chose qu'il fait en arrivant, aller voir le Palais Garnier. Il ne connaît personne, il dort sous les ponts, mais quelle importance, il est à Paris. Son but, que mademoiselle Henriette Renaud, professeure de rôle, qui a fait la pluie et le beau temps dans les théâtres les plus prestigieux, le prenne sous son aile. Elle fera en effet de lui l'un des plus grands ténors au monde que tous les théâtres s'arrachent. Mais il suffira d'une journée, fin septembre 1945, alors qu'il est de retour à Paris, pour faire de lui un homme mort, où c'est tout comme. Le rideau est tombé, mais en coulisses, des bonnes âmes, encore, veillent sur lui. À travers le portrait d'un homme au destin tumultueux et romanesque, Alexia Stresi signe, avec des lendemains qui chantent, un roman magistral sur le XXe siècle, le pouvoir de la musique et de ce qu'il reste quand on a tout perdu. Bonjour Alexia Stresi et bienvenue à Secret d'écriture. Je crois savoir que l'endroit où vous avez grandi est lié à l'histoire de votre roman.
Bonjour Cécile Pivot. Oui, en effet, j'ai eu la chance de grandir dans un théâtre, plus précisément au Théâtre Gralin de Nantes, où mon grand-père était lui-même ténor et ma grand-mère pianiste répétitrice. Et donc c'est une enfance évidemment particulière. Que j'ai vécu comme si elle était ordinaire, puisque je ne pouvais pas la comparer, c'était la mienne. Et donc j'ai baigné dans la musique, la joie du travail qui n'en est pas un, les mâles de costume, les soirs de représentation, enfin bref, dans un bain artistique qui sans doute m'a permis d'aborder ce milieu de l'opéra avec moins d'appréhension que si j'y avais été totalement étrangère.
Vous êtes vous-même musicienne ?
Alors non. Je ne suis ni instrumentiste ni musicienne. Il se trouve que lorsque mes grands-parents ont disparu, l'opéra a disparu de ma vie avec eux. En fait, c'est une page qui s'est tournée Et j'ai tourné le dos, moi, à ce milieu, à cet art, à la musique. Vraiment, tout s'est arrêté parce que ça avait été tellement formidable, tellement joyeux, tellement beau. Et puis, c'était tellement lié à mes grands-parents que j'aimais infiniment que j'ai fait le deuil de tout ça en même temps. Et puis, donc, et ce, pendant 30 ans, quasiment 40 ans. Et puis, il y a quelques années, 3 ou 4, sans doute parce qu'on sait bien ce qu'il advient des choses qu'on essaye de mettre sous le tapis, à un moment donné, elles se rebellent, elles reviennent par la cheminée, par la fenêtre. Enfin, voilà. J'étais sans doute prête, moi-même, à reposer le regard sur ce moment-là de ma vie. Donc, il y a quelques 4 ans, j'ai écouté par hasard à la radio Roberto Alagna qui chantait une chanson de variété italienne qui s'appelle Caruso, qui est un hommage donc au grand ténor italien. Et en fait, je me suis arrêtée net. La vie autour s'est figée. J'ai vraiment senti mon sens, voilà, et j'ai eu les larmes aux yeux en me disant que c'est beau, mais que c'est beau, comme ça me touche, et comment j'ai pu rester si longtemps sans écouter de musique. Voilà comment tout a commencé.
Très bien. Alors, je vais revenir à Elio Leone, qui est le personnage principal de votre roman. Quelles sont, selon vous, ses plus grandes qualités ?
Il en a beaucoup. Enfant, je dirais la curiosité, une forme d'innocence joyeuse que n'a pas altéré la rudesse de sa vie. La capacité également qu'il a à aller demander de l'aide, ou en tout cas l'instinct de survie qui lui permet de la trouver là où elle est. Donc il arrive à saisir les mains qui se tendent, il arrive même à saisir celles qui ne se tendent pas, et à faire son petit bonhomme de chemin avec une force, une joie de vivre, un émerveillement pour les paysages, les gens, les mots, la musique, que je lui envie. Et c'est d'ailleurs parce que je trouve ça magnifique que je l'en ai doté. Je voulais vraiment qu'il ait chevillé au corps l'envie de vivre. C'est d'ailleurs elle qui lui permet de survivre là où les chiffres dans les orphelinats italiens au tout début du XXe siècle étaient absolument épouvantables. Le simple fait que ce petit garçon s'en sorte tient du miracle. Et je voulais qu'il cumule comme ça les choses miraculeuses. Mais en fait, il est tout simple. C'est simplement qu'il a envie d'être joyeux coûte que coûte.
Vous parlez de sa joie de vivre, mais aussi il y a une vraie part d'ombre chez Elio Leone.
Alors, cette part d'ombre va effectivement, comme vous le disiez en introduction, va être réveillée brutalement, férocement à son retour de la guerre. Parce que dans toute la première partie de sa vie, on voit ce petit garçon devenir un homme, se renforcer, s'enrichir, décider effectivement qu'il sera quelqu'un et que ce quelqu'un sera chanteur. On le voit travailler, on le voit s'exercer, on le voit avoir envie, on le voit avancer. Sans qu'on ait l'impression que tout ça lui coûte. On a l'impression que vraiment ça coule de source et qu'il arrive à franchir les obstacles avec une déconcertante facilité. Mais non. Moi, je voulais qu'à un moment donné, quelque chose, non seulement le fracasse, mais nous dise et nous fasse prendre conscience à quel point, en fait, cet effort qu'il a fourni pendant la première partie de sa vie lui a coûté. Et je crois que cet homme est épuisé, en fait. Pas tant parce qu'il a donné le change, mais épuisé des efforts qu'il a fournis tout en souriant, sans jamais montrer à quel point c'était difficile pour lui, mais ça l'a été. Donc, derrière cette élégance de façade, à ce moment-là, je pense, enfin oui, à son retour de la guerre, il lui arrive des déceptions, des trahisons, il y a un deuil, enfin plein de choses qui évidemment l'affectent. Mais je pense que la mélancolie dans laquelle il sombre vient de beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle vient en fait de cette bataille qu'il mène depuis qu'il est enfant, justement, pour tenir debout et réussir à avancer. Et puis, on va assister, dans la deuxième partie du roman, on va voir comment cet homme qui, abîmé, fatigué, va réussir à se ressaisir et va se reconstruire un peu à côté de celui qu'il était, un peu différemment. Et comment, au final, il va évidemment réussir sa vie, mais pas au sens d'une réussite sociale.
Et quels sont ses défauts, selon vous ?
Ah, quelle question ! C'est une question difficile, parce que... alors, peut-être... la naïveté de penser que les gens autour de lui sont à son image, la naïveté de croire que la gentillesse appelle la gentillesse, et sans doute que sa propension à aimer et à vouloir être aimé peut se transformer en faiblesse et en défaut. C'est-à-dire qu'il cherche, et puis il revit sans doute, sans en être tout à fait conscient, il revit sans doute quelque chose de l'ordre de l'abandon, et il a tendance à aller chercher des gens qui vont un peu le maltraiter. C'est-à-dire que pour revivre quelque chose qui lui est arrivé tout petit. Mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la reproduction dans la façon qu'il a d'être attiré par les gens qui lui disent non. Et alors ça peut être une force. En l'occurrence, ça va lui jouer des tours.
Présentez-nous Mademoiselle Renaud, la professeure de chant d'Elio Leone, qui n'a pas un caractère facile, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, alors en effet, c'est une dame d'un certain âge qui a pris sa retraite après une carrière internationalement respectée. Professeur de rôle, c'est tout à fait différent de professeur de chant, qui, professeur de chant, s'occupe de la technique vocale. Un professeur de rôle s'occupe du comédien, s'occupe d'aider le chanteur à réfléchir au sens du rôle et du personnage qu'il va jouer. Et les plus grands chanteurs du XXe siècle, Pavarotti, Alagna, La Callas, avaient tous non seulement un professeur de rôle à leur côté, mais ils avaient le même. C'est dire si une certaine Janine Rice a dominé la profession de la tête et des épaules. Voilà, ma mademoiselle à moi, le personnage de mon roman, s'appelle Henriette Renoux. Et je me suis beaucoup inspirée de Janine Rice pour écrire ce personnage, qui effectivement est quelqu'un d'une immense exigence pour les chanteurs qu'elle accepte comme élèves, mais dont la présence à leur côté le temps de leur carrière les rassure infiniment. Et comme c'est la meilleure, Elio Leone a eu envie qu'elle l'accepte comme élève. Elle a d'abord bruyamment et sèchement refusé, et puis en entendant sa voix, elle s'est dit que c'était sans doute l'élève qu'elle avait attendu tout au long de sa carrière, et elle ne pouvait pas passer à côté de celui-là. Et ils commencent à travailler ensemble, et c'est en fait une rencontre qui ira bien au-delà d'une simple relation de travail. C'est vraiment une très très belle histoire et un très beau lien qui les lie tous les deux.
Oui, magnifique, je suis d'accord. Ce qu'inculque Mademoiselle Renoux ce qu'inculque Mademoiselle Renoux à Elio Léoné, ce sont bien plus que des cours de chant et de technique, ce sont des leçons de vie, écrivez-vous. En quoi consistent ces leçons de vie ?
Alors, il faut revenir sans doute sur ce qu'est la voix. La voix, c'est un instrument mystérieux, y compris pour les chanteurs lyriques. Ils ne voient jamais leur instrument, c'est pas un piano, un violoncelle, c'est quelque chose qu'ils ont dans la gorge et qu'il faut qu'ils arrivent à maîtriser, à apprivoiser. Et ce quelque chose sera affecté par tout ce qu'ils sont, par tout ce qu'ils vivent. On s'en rend bien compte nous-mêmes. Moi, voilà, je viens d'être malade et donc ma voix emporte les traces. On dit d'une voix, lorsqu'on a peur, qu'elle blanchit ou à cause de l'émotion, qu'elle tremble. Et donc le chant s'appuie évidemment sur ce qu'est l'homme qui chante, sur ce qu'il traverse. Et donc Mademoiselle Renoux va essayer d'apprendre à Elio à mettre sa voix en conformité avec ses émotions. Elle va lui enseigner comment à être plus solide, à être honnête, à pouvoir se faire confiance. Bref, elle va essayer effectivement de le faire grandir en tant qu'homme pour qu'il puisse avoir une assise incroyablement solide pour ensuite chanter. Et chanter non seulement des rôles difficiles, mais chanter la vérité de ce qu'il est. C'est quelqu'un, Mademoiselle Renoux, qui dit et répète qu'on n'a pas le droit de tricher dans la vie, et encore moins lorsqu'on chante.
Donc c'est cela qu'elle dit en fait quand elle est très contente un soir de sa prestation et elle dit qu'il a enfin laissé son talent tranquille. En fait c'est ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire ne pas bidouiller avec justement les leçons, ne pas donner à voir son talent, ne pas écraser le public avec une voix exceptionnelle. Non, rien de tout ça. Enfin tout ça. Aussi, sans doute, mais surtout laisser passer la vérité de l'homme, laisser passer l'émotion, être vraiment non plus dans la démonstration, mais dans le cadeau.
En une journée, de retour à Paris à la fin de la guerre, la vie d'Elio Léoné va basculer. Il me semble qu'on débute la deuxième partie de votre roman, qui est plus sombre que la première, n'est-ce pas ?
Oui. Un peu, effectivement. Là, il y a un point d'arrêt très rude, très net. Jusqu'à présent, on voyait Elio advenir, grandir, s'épanouir, et on applaudissait à ses succès. Et puis là, quelque chose. Lui va devoir marquer un. Enfin, il est arrêté dans son envol. Et il souffre. Alors on va assister à une sorte de dérive. L'homme s'effondre et il ne cherche plus du tout ni d'aide, ni même dans un premier temps à se relever. Il a perdu sa voix, le goût de la musique. Sans doute pas loin d'avoir perdu également le goût de la vie. Mais là encore, les bonnes étoiles, un réflexe, un mécanisme de survie, une rencontre vont l'aider à se relever.
Parlez-nous justement de l'amitié qui le lie à Eugène Van Zoo, qu'il rencontre en 1957 à Nantes.
Alors, Elio a renoncé à une carrière de soliste à ce moment-là. Il est caché dans les chœurs de l'opéra de Nantes et il prend garde de dissimuler ce que sa voix a d'exceptionnel. Il ne veut pas qu'on l'entende lui plus que les autres et donc il fond sa voix avec celle des autres choristes. Mais de temps à autre, il s'octroie quand même de petits plaisirs et celui de chanter les rôles d'antan et Eugène Vanzo, qui est un ténor vedette du moment, va surprendre Elio alors qu'il chantait pour son plaisir derrière une porte fermée. Et évidemment, Eugène Vanzo va être ébloui par cette voix hors norme. Lui va tout de suite comprendre à quel point elle est belle, à quel point elle est rare, et va essayer d'inciter Elio à revenir au premier plan, à reprendre sa carrière là où il n'aurait jamais dû l'arrêter. Mais Elio va tenir bon. Il ne veut plus s'exposer. Il veut servir la musique, mais ne pas le faire au premier plan. Et en fait, un accord va être trouvé entre les deux.
Oui, on n'en dira pas
on
plus.
On n'en dira pas plus.
Mais c'est vrai que l'amitié qui les lie est magnifique, parce qu'on sent que tous les deux sont prêts à se sacrifier pour l'autre à certains moments de leur vie, en fait. Et
oui,
c'est
oui.
Très, très beau.
C'est une amitié qui est faite d'admiration réciproque, de beaucoup de pudeur. Et c'est une amitié, effectivement, qui tiendra jusqu'au bout et qui va les aider tous les deux.
Chère jeunesse, n'obéissez pas à votre histoire, faites-la, conseille un jour Elio Leone. Est-ce ce qui résume le mieux la vie de votre personnage principal ?
Oui, sans aucun doute. En tout cas, c'est le conseil qu'il s'est appliqué à lui-même, à savoir, rien n'est interdit, on a le droit de rêver. Et si on rêve suffisamment fort, si on se donne suffisamment de mal, les rêves deviendront réalité. Et donc c'est vrai que ce petit orphelin n'aurait jamais dû normalement devenir un ténor internationalement acclamé. Pourtant il en a eu envie, il s'est donné les moyens d'eux, et puis il a même fait plus que ça. Parce qu'en fait, si on peut parler d'une vie réussie en ce qui concerne la sienne, ce n'est pas tant par ce qu'il a accompli socialement et sur les scènes d'opéra du monde entier, mais c'est véritablement, parce qu'il est resté toute sa vie fidèle à lui-même, honnête, intègre, et que la grande réussite de la vie d'Elio, c'est vraiment l'homme qu'il est devenu.
Qu'est-ce que la musique vous apporte, Alexia Stresi ?
Ce que la musique m'apporte, beaucoup de choses très différentes selon les moments, les musiques que j'écoute, et je crois selon ce que je lui demande. Elle peut me rendre très très gaie, elle peut me donner envie de pleurer, elle m'émerveille, elle m'épate. C'est aussi un art qui me trouble et m'impressionne beaucoup, parce que moi qui suis si sensible aux mots, je ne comprends pas toujours comment la musique me parle autant, par quels moyens elle le fait, mais j'ai vraiment l'impression que la musique me raconte une histoire. Alors il se trouve qu'elle me raconte un peu la mienne d'histoire, puisque je racontais tout à l'heure à quel point j'avais un rapport familial avec la musique. Mais vraiment, j'entends de l'amour, j'entends de la séparation, j'entends... Vous n'avez pas idée à quel point la musique vraiment me parle.
Ah, vous avez écrit un très beau livre, je trouve, qui ferait un très bel opéra, c'est ce que je me suis dit après. Vous allez maintenant nous lire un extrait ?
Volontiers. Les trois coups. Il est l'heure. La salle s'éteint. Des raclements de gorge la parcourent. Les spectateurs s'offrent une dernière toux avant de faire silence. Presque nuit noire. Temps. Pas vide. Devenu rectangle de lumière, la fosse d'orchestre captive. Les violonistes ont posé leur archet. Les musiciens demeurent stoïques près de leur instrument muet. Tant d'immobilité attire le regard, il ne se passe rien et c'est fascinant. Le suspense monte. à cet instant, et du pas vif de celui qui sait son prestige, le chef fait son entrée. La salle se met à applaudir. Catastrophe, ils ont les mains molles, note Gueusy qui soudain se sent mal. Lui rêvait d'une clameur. Il voulait un engouement à même de faire oublier l'orage dehors, le nazisme au loin, et ses tonnes de factures à payer. On n'y est pas, il faut rester sur terre. La baguette du chef tapote à deux reprises le pupitre, puis se fige le temps d'un silence si précaire qu'on n'entend que lui. Une paume s'élève, l'autre s'écarte, bam, ouverture.
Passons maintenant, Alexia Strezzi, au questionnaire secret d'écriture. Votre mot préféré ?
Le mot « simplicité ». Parce que ça ne m'a pas été donné tout de suite. Je viens d'un milieu modeste. Dans ma famille, on n'avait pas fait d'études, il n'y avait pas de livres à la maison. Et moi, j'ai tout de suite eu le goût, un goût très prononcé pour l'école et les livres. Et pour me prouver à moi-même, sans doute, que j'avais ma place dans les études, que j'ai par ailleurs décidé de poursuivre, je m'attaquais à tout ce qu'il y avait de plus difficile. Donc les livres, les concepts philosophiques complexes, les gros livres réputés illisibles, les mots rares. Et donc je voulais absolument me mesurer. Voilà. Donc j'ai joué les fortiches pendant assez longtemps, avant de me rendre compte que je brassais du vent peut-être, en tout cas que je m'éloignais de moi-même, et puis de redécouvrir finalement, mais tardivement, les vertus de la simplicité. Et donc depuis, j'élague, et c'est vrai que je me rends compte que même mon écriture a beaucoup changé. Maintenant, comme dirait Colette, j'écris avec les mots de tout le monde, mais j'essaye de le faire comme personne. Mais vraiment, la simplicité, c'est aujourd'hui ce qui me guide, et en tout.
Celui que vous détestez.
Alors, je n'ai pas véritablement de mots détestés. Pourquoi faudrait-il que j'en déteste un, y compris quand il désigne quelque chose d'affreux? Je trouve important de nommer les choses. Donc, il n'y a aucun mot qui me déplaît vraiment. Il y a une expression qui me fait peur, qui me tétanise, et que je... Heureusement, on n'entend pas souvent, mais qui est « taisez-vous ». Voilà, ça me déplaît fortement.
Votre endroit préféré au monde ?
Alors évidemment, il est secret et amené à le rester. Vous imaginez bien pourquoi. Ce que je peux en dire, c'est que c'est sur une petite île en Italie. C'est un endroit de bout du monde. Si on a faim, on cueille une figue dans l'arbre. Si on a chaud, on pose ses espadrilles et son short sur un rocher, on va se baigner. Il y a des chaises disposées dans le petit village pour que les gens s'arrêtent et admirent le panorama. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boutique. C'est un endroit essentiel, d'une beauté sauvage. Et j'ai le même dans le Finistère Nord. Voilà, pareil. À chaque fois, il y a la mer, l'horizon, et pas grand-chose d'autre, et pas beaucoup de monde.
Quelle est votre dernière lecture ?
Quel est ton tourment de Sigrid Nunez ? C'est une autrice américaine dont ce livre donc, vient d'être traduit en français. Et c'est un livre lumineux, bouleversant sur deux amies, l'une qui accompagne l'autre dans son choix de mourir. Voilà, l'une des deux femmes est atteinte d'un cancer en phase terminale et elle n'a pas envie de vivre ça jusqu'au bout. Donc elle a un petit médicament dans son sac et elle part dans une maison et elle demande à une amie de l'accompagner. Alors c'est évidemment un sujet terrible, très sombre, et le livre est empreint d'humanité, de joie. Il y a un retour à l'essentiel, il y a une langue d'une limpidité. Ce livre m'a ébloui et rassuré.
Quelle sera votre prochaine lecture ?
Alors, il faut que j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps, mais ce sera sans doute le tome 2 du dossier M, un livre en deux ou trois tomes d'ailleurs de Grégoire Bouillet, chaque tome faisant près de 1000 pages. Donc c'est pour ça que je dois demander la permission à mon agenda pour cette lecture. Le tome 1 du dossier M raconte une histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu entre Grégoire Bouillet, ou en tout cas un narrateur qui dit « je », et une jeune femme qu'il a croisée au travail. Et c'est un livre total. On voit que l'auteur pense littérature, est littérature. Il analyse l'amour, les sentiments, ce qu'il est lui-même et notre société, notre actualité, avec une acuité et une intelligence absolument époustouflantes. C'est drôle, c'est tendre. C'est absolument magnifique. Il explose absolument ce qu'on met habituellement sous le terme d'autofiction. Je crois qu'il invente un genre, une œuvre à lui tout seul. C'est magnifique. Mais c'est gros.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Alors, hélas, c'est la nuit. Je dis hélas parce que c'est épuisant. Et c'est la nuit parce qu'en fait, quand je suis en train d'écrire, les personnages ne me lâchent pas et eux n'ont pas besoin de sommeil. Donc en général, quand je vais me coucher, je me réveille au bout d'une heure et demie, comme si la nuit était terminée, et je me réveille avec une idée, avec un personnage qui me dit « tiens, je pourrais faire ci ou je voudrais faire ça ». Et je n'ai absolument aucun autre choix que je n'arriverai pas à me rendormir. C'est pire qu'une insomnie. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'en deux secondes, je suis debout, je trottine à l'ordinateur et je profite de ce que le sommeil m'a apporté comme idée pour avancer le chapitre suivant. Alors c'est formidable, c'est très gentil au personnage de venir me chercher la nuit avec de belles idées. Mais évidemment, au bout de 6 mois, j'ai mauvaise mine. Voilà. Mais c'est vrai aussi que je trouve très agréable d'écrire et travailler dans un appartement silencieux, dans une ville qui dort. J'ai l'impression de faire tellement ce que j'aime à ce moment-là.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je crois que je le fais par amour. Tout bêtement, je le fais parce que c'est un geste qui m'est très naturel, c'est presque un réflexe. Je le fais pour vivre plus fort ce que je vis, je le fais vraiment le plus simplement du monde parce que j'aime ça plus que tout au monde.
Où écrivez-vous ?
Alors, paradoxalement, la nuit à mon bureau et dans la journée, souvent dans mon lit, volet fermé. Voilà. L'idée étant que j'aime bien qu'il fasse nuit autour de moi et que la seule chose lumineuse, ce soit l'écran de l'ordinateur. Voilà.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez ? Et si oui, laquelle ?
Non, je suis absolument incapable d'écrire en écoutant de la musique. Je peux écrire dans un café, je peux écrire au milieu des cris d'enfants, je peux écrire dans plein de situations, mais impossible pour moi d'écrire avec de la musique, parce que s'il y a de la musique, je l'écoute. Et si j'écoute de la musique, je ne peux absolument pas me concentrer sur le rythme de mes propres phrases. Donc ça, non. Par contre, il m'arrive d'en écouter avant de me mettre à travailler. pour créer une couleur, une émotion, pour me mettre dans un état d'esprit. Donc, si je sais que le chapitre qui m'attend va être joyeux, s'il faut de l'énergie, voilà, je peux écouter du rock, ça peut être Nirvana. Et si j'ai besoin de trouver de l'émotion, si j'ai besoin de me faire mal un peu, parce qu'à ce moment-là, c'est un passage touchant, ou supposé l'être. Là, il y a plein de musique triste qui me bouleverse, et donc j'écoute ça un petit peu. Et dès que je sens que ça ne va plus du tout, hop, je me mets à travailler.
Luttez-vous contre la page blanche, et si oui, comment ?
Alors, jamais, aucun problème de page blanche. C'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'histoire est dans ma tête et j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à l'écrire aussi vite qu'elle s'écrit dans ma tête. Donc je cours après, je cours derrière et je manque de temps surtout.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Sans doute contre l'angoisse, contre toutes sortes d'angoisses. La planète, la guerre, la perte. Voilà, je suis pas d'une nature très, très sereine. Et je dois dire que l'écriture est ce qui me calme, est ce qui me fait sourire, est ce qui me rend heureuse. Et c'est en écrivant que j'arrive à me débarrasser de toutes mes angoisses. Non pas que je les mette dans mes textes, pas du tout, mais simplement lorsque je travaille, je me sens très sereine, très bien, très légère.
Merci beaucoup Alexia Strezzi d'être venue à Secret d'écriture. Je rappelle le titre de votre roman Des lendemains qui chantent aux éditions Flammarion. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque et sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt !